pas d'espoir.
Sur le pont du Nord, un bal y est donné. Sur le pont du Nord, un bal y est donné. Adèle demande à sa mère d'y aller. Adèle demande à sa mère d'y aller. Non, non, ma fille, tu n'iras point danser. Non, non, ma fille, tu n'iras point danser.
Bonsoir, c'est Jazz Libre Radio Libertaire 89.4, votre rendez-vous bimensuel avec le jazz. Yves au micro, en direct des studios. Franck à la réalisation technique. Et n'oubliez pas, comme toujours, de télécharger la souscription, car nous avons besoin de votre soutien actif pour maintenir cette radio en bon état, aussi bien d'un point de vue technique qu'au niveau du contenu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de réécouter l'ensemble des émissions pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion, donc en fait deux secondes après la fin des émissions, vous pouvez la réécouter et la télécharger. Je précise que vous pouvez la télécharger. Le format sera MP3. Vous allez sur la grille des programmes, vous avez l'ensemble des émissions et vous cliquez dessus pour avoir le podcast comme vous souhaitez le réécouter. N'oubliez pas de regarder, de consulter ma page Facebook sur laquelle je mets, j'ai mis quelques vidéos de concerts, des choses assez incroyables. Là, toute récente avec George Coleman, 92 ans. Et Ron Carter, 89 ans, donc voilà, des adolescents toujours en exercice. Donc ça va m'amener évidemment à vous parler de cette première partie d'émission consacrée à Sonny Rollins qui nous a quittés. Donc ma page Facebook Yves Jazzvib sur laquelle je mets l'ensemble des informations, la playlist de la soirée et les pochettes des albums. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Sauf que en deuxième partie d'émission, nous recevrons le pianiste italien Giovanni Mirabassi pour son nouvel album Più Avanti, qu'il nous fera un plaisir de commenter. Hein, qui, comme vous le savez, ça, ce disque, cette musique a toute sa place dans Radio Libertaire, dans la mesure où c'est une série de chants révolutionnaires. Donc, voilà, nous l'attendons avec impatience. Oui, Sonny Rollins nous a quittés à l'âge de 95 ans. Il était né en 1930. J'avais fait des émissions sur Sonny Rollins il y a très très longtemps, donc je vais y revenir cet été. Parce que évidemment c'est sans doute le dernier géant vraiment de cette musique qui nous quitte. Il avait arrêté de jouer il y a relativement peu de temps, hein, vers 2014-2015 je crois qu'il avait cessé de jouer, donc voilà, un peu plus d'une dizaine d'années, ce qui est une belle performance, hein, il faut dire les choses, un petit peu comme George Coleman dont la vidéo est sur ma page. Alors on va commencer évidemment par le tube de chez Tube, quelque chose que vous avez tous entendu, qui a été immortalisé, y compris en France, par Claude Nougaro, avec la chanson « Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». Et donc, il s'agit évidemment de Saint Thomas, parce que Sonny Rollins a des origines antillaises, et, enfin caribéennes on va dire, pas forcément antillaises, mais caribéennes d'une manière plus générale, avec aux Caraïbes une pulsion très particulière, et bon, il n'a pas été le premier à introduire ça. Je pense que le premier a sans doute été Charlie Parker, on va dire, dans le jazz moderne. Mais donc c'est la version que je vous ai choisie. Il y a beaucoup de versions de Sonny Rollins, mais je vous ai choisi celle avec Tommy Flanagan, avec Dude Watkins et Max Roach, issue de l'album de 1957, 56 ou 57. J'ai un trou de saxophone Colossus, qui évidemment fait partie des bornes absolument incontournables. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de ce géant qui nous a quittés. Ben voilà, la roue tourne, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, on voit là, il est c'est un thème en deux esprits différents. Vraiment le premier avec ce côté chaloupé typique de musique caribéenne. Et puis évidemment, après, il part en swing. Alors, c'est un saxophoniste ténor qui a, dès le début... Alors, je fais une petite parenthèse. On a beaucoup reproché à Coltrane de jouer... de s'exprimer très longuement sur ses solos, mais Sonny Rollins l'avait fait déjà depuis un bon moment. Et alors on peut quand même dire qu'il y a presque trois grandes périodes. Cette première période des années 50 post-bebop. Ensuite, il nous fait une crise existentielle. Il joue pas pendant 4 ans. Et puis après, il va s'entraîner sur le pont de Washington, le Washington Bridge, qui relie Staten Island à Manhattan. Et il revient avec un album qui s'appelle The Bridge. Voilà. Et puis à partir des années 70, il y a encore un autre son qui va se modifier. Alors, on a de la chance, c'est qu'on a à la technique Franck, qui est saxophoniste et qui peut nous dire un petit mot sur les caractéristiques, parce que moi je ne suis que pianiste, évidemment j'ai une certaine connaissance des choses, mais peut-être qu'il y a des choses plus spécifiques que les saxophonistes pourraient nous raconter plus précisément. Je te passe la parole, Franck.
Oui, ben plus précisément, techniquement, enfin il y a un son, mais effectivement il y a eu cette expression qui tournait, et puis dans sa façon de jouer, qui était quand même assez au-delà d'être cyclique, qui quand même évoluait, mais qui pouvait aller de plus en plus loin et surtout aborder des chorus sur une durée assez longue. Mais ce qui me frappe en tant que saxophoniste, c'est toute cette approche très rythmique en fait de son jeu, qui a toujours été, et cette approche rythmique est quand même assez particulière, où on voit qu'il y a une emphase avec par la batterie ou autre, mais en tout cas toute cette recherche de rythme au travers du saxophone. C'est vrai que beaucoup de saxophonistes, et notamment Coltrane, étaient très 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 proches d'Elvin Jones. Enfin, donc ce jeu et en fait cette concordance avec le jeu rythmique, je ressens énormément dans le jeu de Sonny Rollins.
Alors on peut ajouter aussi quelque chose, c'est qu'il a beaucoup beaucoup joué en trio, sans piano et ou sans guitare, alors qu'il a adjoint pas mal de musiciens assez prestigieux. D'ailleurs, on va écouter un autre extrait de cet album. Je précise, pardon, que cet été, je vais faire une grande spéciale sur Sonny Rollins, reprendre un petit peu tout ça, tout ce que j'avais fait il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, je reprendrai sans doute cette émission avec des ajouts. Oui, il a beaucoup joué en trio, saxo, contrebasse, batterie, avec notamment ce fameux concert du Village Vanguard avec Wilbur Ware et Elvin Jones, je crois, hein, c'est ça, qui a été une marque indélébile pour un grand nombre de musiciens, et notamment Henri Texier qui fait toujours cette référence quand on lui dit c'est quoi, et il dit ça a été vraiment un truc assez étonnant. Moi j'ajouterais que aussi il a une science de l'harmonie, parce que dans son solo, et c'est encore plus frappant quand il est en trio sans instrument harmonique, on sent les accords derrière, et ça c'est vraiment prodigieux, quoi.
C'est tout l'intérêt aussi, comme tu dis, de jouer sans piano ou guitare. C'est à un moment donné, on a une ouverture et puis un champ libre qui, en plus, si on incarne l'harmonie avec le saxophone, donne aussi bien des couleurs que des échos rythmiques, mais aussi la capacité de ramener l'harmonie dans le jeu avec la contrebasse. Donc c'est un terrain de jeu quand même assez fabuleux, ouais.
Alors là, on va écouter une version d'un thème de Charlie Parker qui s'appelle Now's the Time, qui est je crois que c'est son deuxième album après sa crise existentielle. C'est une session qui date 1964. Et il est accompagné, alors quand même, par des musiciens déjà plus qu'importants, comme Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse, donc quand même il se paye la rythmique de Miles Davis, et puis Roy McCurdy à la batterie. Voilà, donc Now's the Time. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que Now's the Time, comment vous dire, c'est un blues, mais avec un pont un peu particulier, c'est un pont avec une ascendance chromatique. Hein, on monte d'un demi-ton comme ça. On a l'habitude de le faire, et lui, il le traite vraiment alors complètement différemment, et je trouve ça assez fabuleux. C'est-à-dire, en fait, il fait une omission et on entend quand même le truc, quoi. C'est presque comme les notes fantômes chez Parker. Voilà, on écoute. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors là, je vous passe évidemment tout un tas de choses célèbres. Et on va passer à peut-être la plus célèbre d'entre toutes, tout au moins en France, puisque pour les plus vieux d'entre nous, vous allez reconnaître évidemment ce thème qui a été le générique d'une émission extrêmement célèbre. Je ne vous dis pas laquelle, vous allez évidemment reconnaître. Et le thème, évidemment, s'appelle The Night Has a Thousand Eyes. Et c'est un album qui est sorti en 1962, tout de suite après The Bridge, avec Jim Hall, magnifique à la guitare, Bob Cranshaw à la contrebasse, du temps où il était encore à la contrebasse, et Ben Riley à la batterie. Alors, Bob Cranshaw s'est mis à la basse électrique. Alors, j'ai ouï dire, il faudra que je vérifie mes sources d'un point de vue purement historique. C'est la femme de Sonny Rollins qui l'a un peu poussé à abandonner la contrebasse. Et puis, lorsque la femme de Sonny Rollins est partie très loin sous terre, eh bien, il s'est remis à la contrebasse. Comme quoi, voilà, on ne soupçonne pas toujours l'influence des épouses. Je pense notamment à celle au pluriel de Miles Davis. Bon, passons. Donc, vous allez évidemment reconnaître ce thème qui était le générique d'une très célèbre émission du soir. Et je vous dirai après, pour ceux qui éventuellement auraient la mémoire qui flanche, de quoi il s'agissait. C'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. qu'est-ce que on pourrait raconter, enfin, de plus sur le son, toi qui es saxophoniste, est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît particulièrement le son de Sonny Rollins, en tout cas à cette période, en tout cas.
Bah, à cette période, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté très rythmique. Hein, on voit qu'il joue vraiment avec le rythme, il jongle, il s'amuse à inventer des rebondissements rythmiques dans tous les sens. On retrouve des syncopes, en tout cas des rythmes aussi caribéens dans son chorus là. Enfin, bon, c'est un morceau un peu latin, donc évidemment, ça s'y prête facilement. On vit embarqué dans ces rythmes un peu ensoleillés. Mais moi, ce qui m'a toujours amusé ou marqué dès le début, aussi beaucoup écouté Rollins et inspiré de Rollins, c'est son jeu aussi beaucoup dans les graves. En fait, il va chercher beaucoup dans les graves par rapport à d'autres saxophonistes. On entendait même à un moment donné, entendre un peu le son d'un baryton, enfin tu vois, donc on va rechercher vraiment toutes ces sonorités dans les graves, alors que des thèmes comme ça, certains vont peut-être les prendre à l'octave au-dessus, donc lui il va vraiment chercher les graves de l'instrument et puis toute la profondeur de l'instrument.
Et puis c'est quand même un son très puissant, très...
Ouais, très très puissant. Bah, il disait lui-même d'ailleurs, quand il essayait des saxophones, je crois que c'était une fois, il voulait changer de saxophone et il était chez un luthier, il avait pris 3-4 saxophones pour les essuyer, et les essayer, puis il les avait amenés dans sa chambre d'hôtel, et puis ça faisait un barouf pas possible, alors il y a le voisin qui est venu frapper à sa porte, enfin, et puis qui lui demande ce qui se passait, il me dit, j'essaye des saxophones, mais alors la particularité c'est qu'il essaye saxophone dans les notes graves, hein, si bémol, si do, éventuellement do dièse, et il tournait comme ça, il faisait jouer, chauffer les saxophones pour voir celui qui lui correspondait, donc ça produisait quand même un son assez fabuleux dans l'hôtel. Et donc voilà, enfin, on voit qu'effectivement il y a une appétence pour ce son très très grave et ces sonorités assez particulières.
Et donc évidemment le thème The Night Has a Thousand Eyes, vous avez tous reconnu qu'il s'agissait de l'émission de Bernard Pivot, Bouillon de Culture, hein, qui a animé la télévision au temps où la télévision était à peu près intelligente. Voilà. On va continuer avec, on va retourner un petit peu, non pas en arrière, mais sur l'album précédent qui s'appelle Now the Time, où nous avons écouté Now the Time. Et là, nous avons écouté évidemment un thème de Thelonious Monk qui s'appelle Round Midnight, que tout le monde connaît, avec toujours la même section rythmique derrière, à savoir Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse et Roy McCurdy à la batterie. Il faut savoir que Roy McCurdy a joué longtemps avec le quintet de Cannonball plutôt vers la fin, avant que Cannonball se sépare de Joseph Inul. Et puis, on trouve également dans cet album, sur certains morceaux, Fat Jones, le fondateur de Fat Jones Mellewitz, un des frères Jones, hein, parce qu'il y avait Elvin, Fad, et puis... j'ai un trou. Elvin Jones, Fat Jones et Hank Jones, évidemment, une famille de musiciens on ne peut plus célèbre. Et donc, Fat Jones avait monté un grand orchestre avec Fat Jones et Mel Lewis, le père de Hugh Lewis, le chanteur pop. Voilà, vous savez à peu près tout. Il y a également Bob Cranshaw à la guitare basse sur certains thèmes, mais là, je vous ai choisi Ron Carter, et donc nous allons partir sur Round Midnight, bien qu'il ne soit pas encore l'heure, mais après tout, c'est pas grave. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'ai choisi un peu ces morceaux parce que ils sont relativement courts, ce qui est rare, parce que souvent, ils dépassent les 10 minutes. Donc, on y aura droit un petit peu plus longtemps, mais je voulais vous donner un petit peu les panels de choses représentatives pour cet hommage direct après sa disparition toute récente. Donc voilà, c'était un peu au pied levé. Et évidemment, on va continuer avec un autre thème qui fait partie de son répertoire, qu'il a joué longtemps, même jusqu'à la fin. On passera, je vous donnerai quelques extraits de sa dernière tournée qui a duré assez longtemps. Alors, c'est une tournée qui date de 2006 à 2010-12, je crois. Il s'arrête de jouer, il me semble, vers 2012. Et ça fait partie de ses bandes personnelles. Il y a plein de choses. Je vous avais passé, d'ailleurs, un extrait où il fait un duo avec Ornette Coleman. Alors, ce qui est très marrant, c'est que il annonce, et on sent qu'il a une voix un peu éraillée, de petit vieux, un peu comme moi ce soir, d'ailleurs. Et par contre, son jeu de saxophone, lui, il a pas pris une ride. Ce qui est un peu la magie de cette musique. Donc sur les Show Roads hein, qui sont il y a 4 albums hein, je vous en passerai, et puis évidemment il y a ce monument de cette rencontre avec Coleman Hawkins où ils sont tous les deux, et on en parlait hors micro avec Franck, c'est une rencontre qui est complètement dingue, parce que Coleman Hawkins à un moment sur un des thèmes, Je me souviens plus exactement le thème, mais je vous le passerai. On sent Coleman Hawkins un peu perdu, et finalement qui se recentre sur ses routines, et Rollins complètement explosé, part dans tous les coins. Enfin, c'est à la fois génial et émouvant. Enfin, une sorte aussi de musique psychanalytique où Rollins tue le père d'une certaine manière. Et il y a évidemment la même rencontre, mais en public à Newport. À Newport, où il me semble, oui, à Newport, que je vous passerai aussi, et qui est complètement fabuleuse. Voilà. Donc là, on va continuer en attendant notre invité avec un thème évidemment hyper, hyper connu qui s'appelle Don't Stop the Carnival. Inutile de vous faire la traduction. Et je vous dirai qui jouait avec lui à ce moment-là.
You'll never find a better. Thank you.
Jazz Libre Radio Libertaire. Alors, ce morceau fait partie de bonus track, comme on dit, de l'album What's New, qui donc était sorti en 1964, je crois. Et la réédition de celle-ci, non, 62, pardon, j'ai dit une bêtise, et je crois que la réédition avec ce bonus track date de 1978, et donc on retrouve Jim Hall à la guitare, Bob Cranshaw à la basse, Ben Riley, et aux percussions il y a Dennis Charles, Frank Charles, Willie Rodriguez et Candido. Alors je ne sais pas dans quel ordre, mais enfin voilà, je n'ai pas les informations sur les chanteurs et chanteuses. Moi je suppose que Sonny devait chanter aussi. Alors là nous allons continuer en attendant notre invité. Une session assez récente d'une session de radio. Enfin, je reviendrai. Et le thème s'appelle I Remember You. Et c'est en trio. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc il s'agissait d'une session assez oubliée du 5 mars 1959 au studio de Zurich. Il était accompagné par Henry Grimes, évidemment, à la contrebasse, et le très rare Pete LaRocca, qui avait d'ailleurs quelques histoires de procès avec Chick Corea, puisque Chick Corea avait sorti un album sous le nom, et en fait c'était Basra de Pete LaRocca. Bon, voilà. Donc nous reviendrons sur toutes ces faces et ces différentes périodes de Sonny Rollins cet été. Nous aurons le temps d'approfondir cet hommage qui, évidemment, un des derniers, si ce n'est le dernier géant de cette musique. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Giovanni Mirabassi, le pianiste, pour son nouvel album Più Avanti. Et puis nous avons aussi Cécile Faucresson qui est dans le studio avec nous et qui, si elle a envie, et rien ne l'oblige, mais rien ne l'empêche non plus, de prendre la parole au cas où. Donc merci Giovanni. Buonasera.
Buonasera. Grazie, molto bene, grazie. Merci pour l'invitation.
Eh bien, écoute, c'est nous. Alors, la première fois qu'on s'est parlé, tu t'en souviens pas, mais c'était il y a très très longtemps, et à ce moment-là, tu accompagnais la chanteuse Mélanie Dahan. Et c'était pour un concert près de la gare du Nord ou de l'Est, boulevard de Sébastopol, je crois.
Effectivement, je ne m'en souviens pas. Enfin, je me souviens de toi, mais je ne me souviens pas de ce jour-là. Et du fait que j'accompagnais Mélanie, que j'ai accompagnée très longtemps. Alors, elle m'arrive encore aujourd'hui parfois d'accompagner.
Bon, elle va bien, j'espère.
Et elle va plutôt bien, on va dire.
Bon.
On tourne ces jours-ci.
Très bien. Parfait. Alors, donc, Più Avanti. Alors, moi, j'ai une histoire un peu personnelle avec cet album, puisque j'ai le premier qui est devenu un collector.
Absolument.
Semble-t-il. Parce qu'en fait, c'est mon père qui me l'a fait découvrir.
Et ben voilà, c'est arrivé aussi à mon épouse.
Parce que?
Que son père lui fait découvrir ce disque et bah, Galeotto fu il disco et qui le sonore.
Voilà, parce que bon, mon père, a évidemment, qui n'est plus là depuis longtemps, est un ancien résistant déporté, voilà, qui a échappé à tout ça, donc. Évidemment, le chant des partisans a une signification un peu émotionnelle en ce qui me concerne. Donc, bon, voilà. Alors, raconte-nous un peu la genèse à la fois du premier et puis de cette reprise finalement. Pourquoi que s'est-il passé pendant tout ce temps?
Alors, est-ce que nous avons quelques heures devant nous?
On a du temps.
Bon, très bien. Alors, le premier, on va commencer par le commencement. Le premier, eh bien, je suis un très jeune homme, j'ai 16 ans, par là. Je déambule dans ma ville d'Italie, qui s'appelle Perugia, à une époque où je n'avais pas idée que j'allais devenir un pianiste de carrière, ni d'ailleurs que j'allais vivre à Paris pendant 35 ans. Et dans ma déambulation, je passe devant un jardin public où il y a un groupe chilien qui a été exilé dans la région d'Italie d'où je viens et qui va retourner au pays puisque Pinochet est tombé et décide de faire un concert qu'il offre à la ville. Ils ont les autorisations vite fait, ils montent une scène et ils jouent. Et je passe par là, et ces gens-là commencent à jouer El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, qui est d'ailleurs le premier morceau du disque, et qui est aussi le premier morceau de ce répertoire que j'ai commencé à travailler. En rentrant à la maison, je me suis dit, moi, quand je serai grand, je vais faire cette musique-là, je vais jouer de cette musique-là. Bon, il va de soi que j'avais déjà des fortes sympathies pour une certaine vision humaniste de la vie, on va dire, ce qui d'ailleurs m'a valu quelques accros avec les fascistes du Bahut, puisqu'en Italie, des fascistes, il y en a plein, et il y en a toujours eu, et ils sont bien fiers de l'être. Et ceux qui se font tatouer Mussolini sur le bras, je vous parle des vrais fascistes, voilà. ceux qui n'ont toujours pas ouvert le livre d'histoire. Et du coup, bah, je commence à bosser ce truc. Je fais ma toute première séance d'enregistrement, je devais avoir quelques mois après, et j'ai enregistré ce titre, dans une version dont je me rappelle à peine, qui était très différente de celle que j'ai enfin enregistrée des années après. Et ça m'a toujours trotté dans la